Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, pour votre replay mensuel, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui anime l'émission, et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une grande dame, femme courageuse, opiniâtre défenseuse des droits des Palestiniens, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés. En miroir, la présence du réalisateur Christophe Cotteret, qui a suivi la rapporteuse onusienne dans son travail. C'est la chaîne Le Média qui accueille cet entretien. En préambule, la rapporteuse est interviewée par RFI sur le thème de « La reconnaissance de l'État de Palestine n'a rien changé ». Nous terminerons par un très court exposé de Gérard Haro, ex-ambassadeur de France aux États-Unis. Bonne écoute de l'enchaînement des deux enregistrements, celui de RFI et ensuite celui du Média.
Notre grande invitée internationale ce matin est juriste italienne, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Bonjour Francesca Albanese.
Bonjour.
Vous avez publié le mois dernier « Quand le monde dort » aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous avez aussi rédigé un rapport appelé « Le génocide à Gaza, un crime collectif ». D'abord, le Conseil de l'ONU a annoncé il y a quelques heures un vote lundi après-demain sur une résolution américaine. Le texte prévoit notamment d'autoriser le déploiement d'une force de stabilisation internationale à Gaza. Ça ne fait pas partie de vos recommandations, vous n'en parlez pas, vous ne l'évoquez pas dans votre rapport. Est-ce que c'est une mauvaise idée selon vous ?
Disons que ce qui m'inquiète beaucoup à ce moment, c'est le manque de clarté, le manque d'engagement sur le respect du droit international. Parce que vous voyez, on parle d'un déploiement d'une force internationale, pas dans un contexte de règlement de ce qu'Israël a fait à Gaza pendant les derniers 2 ans, mais de contrôle de Gaza. Israël contrôle encore plus que 50% du territoire occupé à Gaza. On ne parle pas de accountability, de rendre compte des crimes qui ont été commis. On ne parle pas d'ouverture de Gaza. Et on a eu dans les derniers mois, connecté au discours sur le cessez-le-feu, plusieurs références à un contrôle qui serait exercé sur la bande de Gaza par les États-Unis et d'autres au niveau international qui devraient être des garants, disons. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe à la population de Gaza? C'est pas vraiment le souci principal pour les politiciens. Aujourd'hui, dès qu'on parle, presque 2 millions de personnes à Gaza sont hors de leurs maisons qui ont été détruites, sont dans des tentes qui sont dans l'eau, pieds dans l'eau, vraiment, matelas dans l'eau, coussins dans l'eau. Et c'est ce qu'on a laissé à Gaza. Le niveau de toxicité du terrain est énorme. On n'en parle pas de quel est le futur des Palestiniens. Et là, la paix sans la justice, c'est de l'injustice en fait.
Alors, on va revenir à ce que vous écrivez là dans ce rapport. Vous analysez, Francesca Albanese, la responsabilité de 63 États, dont la France, dans les violations israéliennes. Pour vous, ces pays sont complices ?
Sont absolument responsables de la situation qui a amené l'état d'apartheid d'Israël de s'évoluer dans un état génocidaire. Parce que ça fait, seulement si on se concentre sur le territoire palestinien qu'Israël a occupé depuis 1967. Et il faut rappeler que la Cour de justice internationale a déjà, il y a 20 ans, plus que 20 ans, déclaré que les actions comme la construction d'un mur de la part d'Israël, le territoire occupé violait le droit à l'autodétermination et a dit il y a un an et demi désormais que l'occupation est illégal et doit être démantelé. Bon, depuis le 1967, Israël a commis des crimes de guerre. La construction des colonies de le territoire occupé est un crime de guerre. A poursuivi le dépeuplement forcé de centaines de milliers de Palestiniens. C'est un crime de guerre qui peut être aussi qualifié comme un crime contre l'humanité dans certaines situations. Et surtout, dans les derniers deux ans, il a commis des crimes obscènes et aucun État a fait assez pour empêcher que tout ça se passe. Au contraire, je trouve, et les États que j'ai nommés rentrent dans ce type d'argument, de raisonnement, et j'ai fourni les preuves. Disons que les États, tous ensemble, ont donné le soutien diplomatique, commercial, économique et financier, militaire, pour soutenir Israël. Et ça viole fondamentalement les obligations des États à ne pas soutenir un État qui commet des crimes.
Alors, vous faites aussi 10 recommandations dans votre rapport. Vous appelez notamment à acheminer de l'aide humanitaire par voie maritime ou terrestre, à l'organiser. Mais comment organiser ça si on sait que de toute façon, Israël va bloquer ses convois ?
Mais c'est ça, Israël est puissant parce qu'on lui donne les moyens d'être puissant et d'exercer sa puissance en fait en détruisant le Moyen-Orient. Israël aujourd'hui est en train de mettre en genou, c'est pas seulement Israël a les États-Unis derrière, mais ça me choque l'Europe et le manque de vision, le manque de stratégie, le manque de principe de l'Europe vis-à-vis tout ça. Israël doit être arrêté, c'est-à-dire ce n'est pas le premier État qui commet des crimes, en fait c'est le premier État qui commet des crimes abominables pendant deux ans, on est dans plus que 750 jours de génocide et on le laisse faire. Les États ont toute la capacité d'intervenir, d'envoyer des navires pour amener de l'aide véritable à Gaza et pour mettre fin au blocus. C'est ce qu'il faut faire.
Mais de forcer un peu le passage, alors.
Mais tout à fait. Bon, disons que les États européens n'ont pas de problème à forcer la main. C'est plutôt à qui on la force. Et là, on a de l'autre côté, on a un pays qui a le soutien. En fait, je pense pas que c'est correct aujourd'hui d'imaginer qu'Israël a le soutien des États-Unis. Israël fait partie d'un dessein impérialistes que les États-Unis sont en train de réaliser au Moyen-Orient et Israël est stratégique dans ça.
Alors vous faites aussi surtout des recommandations juridiques, suspendre Israël des Nations Unies, suspendre toute relation avec Israël, coopérer pleinement avec les organes de justice internationaux, la CPI, la CIJ. Mais il y a déjà eu quand même des manœuvres diplomatiques et juridiques, la reconnaissance de la Palestine par une dizaine de pays à l'Assemblée de l'ONU en septembre, plusieurs pays ont rompu leurs liens. Est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Apparemment non. Apparemment non. Parce qu'en fait, ça servit à quoi la reconnaissance de l'État palestinien en
plus. Donc c'est bien que sur la diplomatie, ça n'avance pas.
Bon, la diplomatie, ça semble complètement détaché de ce qui se passe sur le terrain et je le trouve très très grave. Surtout parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la diplomatie en tant qu'espace et métaphysique où à s'assurer la prévention de la paix. Quelque chose qui a été complètement échoué dans les dernières années. Mais le génocide à Gaza, c'est beaucoup plus qu'encore un échec, parce que c'est quelque chose qui quand même a réveillé la conscience de plusieurs. Il y a un effet Palestine, ceux qui sont au pouvoir continuent à vouloir nier, mais ça se passe dans les rues, ça se passe dans les milieux de travail, ça se passe dans les universités, même si il y a des contextes où même les ministres osent annuler des colloques académiques. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas parler de paix vis-à-vis la continuation d'une injustice autant effrayante comme celle-là qui se passe en Palestine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, tous les jours, en Cisjordanie, où des colons armés attaquent des Palestiniens, des civils complètement sans défense et sans protection, et en brûlant leurs maisons, leurs voitures, leurs animaux, leurs terres, et on les frappant. Et personne n'intervient. C'est clair ce qu'Israël est en train de faire. Alors la reconnaissance de l'État. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça a contribué à distraire de la nécessité d'intervenir pour bloquer les crimes qu'Israël continue à commettre contre les Palestiniens.
Francesca Albanese, il nous reste une minute. Vous racontez aussi dans votre livre votre rencontre à votre arrivée à Jérusalem en 2010 avec un homme qui deviendra votre ami, Abou Hassan. Vous vous apprêtez à passer un entretien pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à l'époque. Et à votre grande surprise, il parle de vautour des Nations Unies. C'était mieux avant quand vous n'étiez pas là. Votre présence ne change rien. Ça vous marque aujourd'hui encore ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Abou Hassan dirait la même chose?
Ah non, Abou Hassan n'aurait même pas la nécessité, le besoin de dire ça sert à quoi les Nations Unies, parce que c'est clair, aujourd'hui on voit l'échec des Nations Unies du point de vue légal, parce que pendant 2 ans les Nations Unies ont été le forum où on parlait de droit à l'autodéfense d'Israël tandis qu'il est attaqué. Et moi je dis pas qu'Israël n'avait pas le droit à se protéger, il l'avait, il l'a, il l'aura, mais pas en occupant et en brutalisant une entière un peuple entier. Et on a pris plus qu'une année pour arriver à discuter d'un cessez-le-feu qui n'a jamais été opérationnel.
Et même le
droit humanitaire a été complètement échoué à Gaza. Ça serait quoi des Nations Unies? Ça, c'est bien le décider, le déterminer.
Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RFI. Je rappelle le titre de votre livre, Quand le monde dort, récits, voix et blessures de la Palestine aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci à vous.
Cela fait plus de 2 ans que Gaza vit l'impensable, plus de 2 ans que la justice internationale tente de nommer l'innommable, plus d'un an que les rapports, les enquêtes, les alertes s'empilent devant un monde qui souvent ne regarde plus. Mais il y a des voix qui refusent de se taire. Aujourd'hui, nous recevons 2 invités qui, chacun dans leur discipline, ont tenté de documenter ce que beaucoup refusaient, de nommer la destruction méthodique d'un peuple et l'effondrement simultané de l'ordre international. Avec nous, Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU, cible d'une campagne internationale d'intimidation par les puissants, simplement pour avoir fait son travail, celui de documenter les faits, de nommer les crimes et de défendre le droit. Et le réalisateur Christophe Cottré qui signe Disunited Nation, un film qui montre l'envers du décor, l'ONU paralysée, les diplomates dépassés, les mécanismes de l'impunité, la faillite morale d'un système qui, sur le papier, aurait dû empêcher un autre génocide et qui pourtant laisse Gaza se faire écraser sous des tonnes de bombes. Et comme le rappelle le film, 3 jours après le 7 octobre 2023, 3000 tonnes de bombes sont déversées sur Gaza. En un mois, c'est l'équivalent de 2 Hiroshima. En 1 an, 6 Hiroshima. Pendant que les corps s'entassent, que les écoles de l'UNRWA s'effondrent, que les enfants meurent par milliers, le débat international tourne autour d'un seul mot, génocide. Indifférence des États, des institutions, des médias, parfois même de nos démocraties qui répriment plus vite une conférence universitaire qu'une livraison d'armes. Bienvenue dans cette émission consacrée au film Disunited Nation, au livre Quand le monde dort, et à une question qui nous concerne tous, combien de temps le monde va-t-il encore dormir?
Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Hein.
Bonjour Francesca.
Bonjour.
Bonjour Christophe, merci à vous. Bonjour. D'être avec nous sur ce plateau. Je voulais qu'on commence peut-être avec vous Francesca. Vous dites dans votre livre que l'empathie est le ciment de notre humanité. Comment est-ce qu'on enquête sur un génocide quand les institutions qui devraient protéger justement l'empathie semblent s'en être détachées?
En fait, ce qui m'a choqué pendant les derniers 2 ans, c'est que les États qui sont censés observer dans leur politique le droit international, le droit constitutionnel où il y en a, ils se sont complètement détachés de ça. Et malgré la documentation, le jour par jour, de ce qui se passait à Gaza, et à savoir en Cisjordanie, Jérusalem-Est, un peu tous les Palestiniens vivent sous occupation israélienne. Et là, ce qui m'a frappé en deuxième lieu, c'était à côté du manque de respect pour le droit que toutes et tous devraient observer et préserver, il y a ce qui m'a choqué, voilà, c'était le manque d'empathie ou bien la présence d'empathie sélective, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de manifestations de soutien. Et justement, hein, je dis pas qu'on n'aurait pas dû l'avoir envers les Israéliens après le 7 octobre, mais la même chose ne s'est pas réalisée, tout le contraire, envers les Palestiniens, même après que les chiffres concernant leurs morts doublés, tripliqués et arrivés jusqu'à 70 000, c'est presque 10 fois le chiffre de gens qui ont été tués, des civils qui ont été tués le 7 octobre. Mais quand même, et on réagit pas de la même façon. Et ce manque d'empathie révèle aussi un racisme résistant dans les veines des systèmes occidentaux.
Et justement, l'empathie dont on parle, Francesca, on le sent aussi dans votre film, Christophe, vous dites, qui s'appelle This United Nation. Déjà, pourquoi est-ce que le choix de ce titre, qui est quand même très politique aussi?
Alors, Francesca Albanese fait bien de le rappeler, faut déjà faire preuve d'empathie pour le peuple palestinien et pour son courage. C'est une première chose. Le peuple palestinien, malgré un dit cessez-le-feu, continue à être bombardé ces jours-ci. Donc, nos pensées vont d'abord au peuple palestinien. Le This United Nation, en fait, le Nations, il y a deux composantes. Il y a à la fois, je voulais rendre hommage au travail de certaines personnes. Je pense que Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU, d'autres personnes aussi. Je pense à Agnès Callamard, Amnesty International ou Johan Soufi, qui également, avec Jurdi, poursuit les gens, ceux qui sont rendus coupables de crimes contre l'humanité et de génocide. C'est une façon de leur rendre hommage, parce qu'effectivement, on ne le voit pas beaucoup. Comme vous le dites très bien, il y a une invisibilisation aussi de ces luttes et du peuple palestinien. Beaucoup en France, particulièrement en France. Et ce film moi je me devais avec ce film de mettre en lumière en fait des luttes qui n'étaient peut-être pas très visibles il y a un an et demi, qui le sont davantage heureusement aujourd'hui et qui méritent d'être évidemment prolongées. Il a fallu beaucoup de courage pour les avoir à cette époque-là et pour avoir comme boussole principale le droit international. C'est ça d'abord que voulait montrer le film. Alors juste pour répondre à votre question, This United Nations, effectivement, l'ONU ne peut que s'il y a une volonté de la part des États membres de l'ONU d'agir. Et ce que montre le film, c'est qu'entre la volonté d'une Assemblée générale des Nations unies qui majoritairement soutient le droit international et la cause du peuple palestinien, vous avez un petit nombre d'États au Conseil de sécurité, d'anciennes puissances coloniales principalement, qui refusent de mettre fin à l'horreur qui se déroule à Gaza actuellement.
Et vous le dénoncez aussi, Francesca, dans votre livre. D'ailleurs, vous avez été aussi juriste onusienne à Jérusalem. Et quel est l'instant, justement, un regard, une phrase, une scène où vous avez compris pour la première fois que le système international était incapable de protéger les Palestiniens?
Disons que c'est une prise de conscience qui a été progressive, dans le sens que si je me regarde en arrière, les Nations Unies ont été une partie prenante de l'injustice qui a marqué le peuple palestinien. Aujourd'hui, on se demande comment les Palestiniens peuvent continuer à avoir foi dans le système international, mais en connaissant le peuple palestinien, il est bien conscient que les Nations Unies font partie d'une injustice parce que l'État d'Israël a été constitué, a été créé dans la terre qui jusqu'à 1948 était la Palestine historique, habitée par des Juifs, des Chrétiens, des musulmans. Et ce n'était pas aux Nations Unies, en fait, de décider de fragmenter cette terre. Et après, les Nations Unies ont fait ce qu'ils pouvaient, surtout dès qu'ils sont devenus, disons, de 50 États le 1945 à 193 États aujourd'hui. De plus en plus, dans l'Assemblée générale, ils ont essayé d'avancer des positions favorables à la Palestine au nom de la justice. Mais finalement, on n'a pas des Nations Unies équilibrées. Il y a le Conseil de sécurité qui garde beaucoup de pouvoir. Et même au-delà du Conseil de sécurité, comme on le voit maintenant, c'est quelques États en particulier. Maintenant, c'est surtout les États-Unis qui dettent un peu la ligne et la loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment difficile de protéger les Palestiniens et tout peuple qui vivent encore dans une situation d'oppression à se libérer de l'oppression elle-même. On doit changer beaucoup de choses au niveau des États afin que les Nations Unies reprennent la capacité de respecter honnêtement et finalement la carte des Nations Unies.
Et justement, vous suivez Christophe Francesca comme un personnage, mais aussi un peu comme une conscience tout au long du film. Pourquoi avoir suivi spécifiquement Francesca Albanese?
Alors, je vais peut-être revenir
Oui.
justement sur la jeunesse du film,
Oui.
parce que au départ, j'avais projet de faire un film sur l'ONU. C'est que peut encore l'ONU? C'est une question qui se posait, d'ailleurs, dans les médias, où on se posait dans un certain nombre de conflits, et évidemment, avant le 7 octobre, y compris sur la Palestine, l'incapacité de régler un certain nombre de problèmes, la difficulté, même si donc l'ONU avait été, il y avait un paradoxe en fait, parce que je voulais montrer ce paradoxe. À la fois, l'ONU intervient et de manière assez efficace sur les questions humanitaires, on pense à l'UNRWA
Oui.
notamment, et en même temps la paralysie politique de l'ONU d'autre part. L'ONU est fondée sur ce paradoxe-là. Je voulais chercher. Quand vous faites un film sur l'ONU, ça devient très vite abstrait. Vous dites, vous allez faire un bouquin, mais quand vous voulez faire un film, il faut des images, il faut rendre les choses palpables, il faut donner chair à ces choses, ces questions-là. C'est large, l'ONU. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'initiatives, il y a du maintien de la paix, il y a de l'humanitaire, il y a de la politique, il y a différentes choses. C'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rencontrer Francesca Albanese. Alors, on est à Tunis, on est quasiment voisins à Tunis. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller écouter Francesca une première fois, je pense, au moment où elle venait de sortir son premier rapport qui qualifiait la situation à Gaza de génocide, d'acte de génocide. Donc, on était au printemps 2024. Les propos tenus par Francesca Albanese me parlaient. Je me suis dit, en fait, elle va incarner non seulement la question de la lutte pour les droits du peuple palestinien à Gaza, et en Cisjordanie et à Jérusalem, mais bien au-delà, elle va aussi être la voix du droit international. Et c'est à ce moment-là où la position de Francesca, pour moi, redonnait corps à l'ONU, voilà, quelque part. Donc même si Francesca est un ambassadeur indépendant,
Oui.
voilà, elle représente tout de même l'institution. Et montrer effectivement le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois la voix de Francesca Albanese porte, et en même temps, la voix politique de l'ONU n'a jamais si peu porté dans un conflit, malgré le fait que le secrétaire général de l'ONU s'implique lui-même et une parole qui lui aussi qu'il essaye de porter. Donc voilà, il y avait ce paradoxe, et Francesca, pour moi, semblait assez intéressant de pouvoir suivre l'évolution, en tout cas, de ce que sa parole allait pouvoir apporter. Un an et demi plus tard, il y a eu un changement au niveau des opinions publiques. Il y a eu même aussi un changement dans certains pays de part des élites politiques. Donc il y a aussi une certaine efficacité, malgré la surdité de certains pays, Francesca Albanese le rappelait, des États-Unis, de certains autres pays européens et bien sûr du gouvernement israélien. Mais ça a donné corps un petit peu comme ça à l'ONU. Donc il y a une première partie dans le film, alors je ne vais pas le spoiler, mais il y a une
Oui.
première partie dans le film où on suit Francesca Albanese en Europe et un petit peu partout dans le monde. La deuxième partie qui se situe là, pour le coup, en Cisjordanie, on traverse la Méditerranée et on découvre sur place les éléments du rapport de Francesca Albanese.
Et justement, votre film pose une question terrifiante. L'ONU peut-elle mourir? Est-ce que vous avez trouvé votre réponse?
Oui, alors là non plus, je vais pas spoiler le film,
Oui.
mais alors est-ce qu'elle peut mourir? À quoi sert-elle encore? Effectivement, donc c'est mieux que rien. Mais effectivement, comment contraindre les États à jouer le jeu? Comment contraindre le Conseil de sécurité à jouer le jeu? Est-ce qu'il y a encore avoir un Conseil de sécurité? Ce sont des questions qui sont sur la table. Mais avoir une ONU sans volonté des États derrière, comment s'articule à la fois le multi... Je ne vais pas être trop technique, mais comment on peut
Oui.
articuler du multilatéralisme qui soit efficace? Pour Gaza, certes, mais aussi pour l'Ukraine, mais aussi pour le Soudan, pour d'autres conflits qui sont en cours. Et d'un autre côté, une surreprésentation des États à l'ONU. Comment ça s'articule? Et la question reste béante à cet endroit-là.
Et Francesca, vous dites dans le film, je cite, c'est rassurant, il y a des gens qui disent la même chose, je ne suis pas folle.
Et je le dis dans un contexte spécifique qu'on. Parce que j'étais la première au sein des Nations Unies Tout d'abord, avec des autres relateurs d'experts indépendants des Nations Unies, dès le mois d'octobre, novembre, a soulevé les risques derrière une attaque autant indiscriminée qui après commençait à avoir dès le début l'air d'une attaque génocidaire parce que les leaders israéliens continuaient à utiliser des formules qui appelaient à la destruction de la population de Gaza en tant que telle. Mais de toutes les façons, j'étais la première à produire au sein des Nations Unies une analyse articulée et assez mécanique en fait de ce qui s'est passé pendant les premiers 4-5 mois d'attaque israélienne contre Gaza en l'appelant une anatomie l'anatomie d'un génocide. Et pendant presque une année quelques, je me suis sentie assez seule dans l'analyse quand tout le monde occidental l'a rejetée. Et je me sentais aussi coupable parce que en mettant de l'avant le mot génocide, ça me semblait de distraire l'attention du fait que on ne pouvait pas le réduire à un débat sémantique. On devait arrêter l'attaque, on devait poursuivre le cessez-le-feu et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y avait aucun intérêt. Le cessez-le-feu n'a jamais été imposé parce que dans la communauté occidentale, ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté de protéger les Palestiniens. Il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a pas la volonté parce qu'il n'y a pas l'intérêt. Les Palestiniens ne comptent pas autant pour pousser pas les gens en Occident. Parce que je pense qu'il y a vraiment un décollement entre ce que le gouvernement fasse et dise et ce que les gens, l'esprit commun est. Mais de toutes les façons, il n'y a pas assez pour pousser les gouvernements à intervenir de façon de principe. Voilà.
Et vous d'ailleurs, Christophe, il y a beaucoup de réalisateurs donc qui ont fait des films pour parler de la Palestine ou de Gaza, mais qui ont évité le mot génocide, alors que vous avez plutôt choisi de le montrer plutôt que de l'éviter. Pourquoi ce choix?
Déjà parce que je suis Francesca Albanese. Donc effectivement, Francesca le rappelait tout de suite, c'est la première à poser sur la table, dans les médias, auprès de l'opinion publique, c'est un génocide. Donc un génocide, ça doit être prévenu, ça doit être, les États ont une obligation par rapport au génocide. Ce n'est pas qu'une affaire sémantique, c'était rappelé tout de suite. Donc il fallait effectivement poser ce terme dans le film. Alors quand j'ai commencé, moi, à travailler donc pour les chaînes Arte, RTBF, on commence à travailler, le mot génocide devait être questionné pour les chaînes. C'est-à-dire qu'on est au printemps 2024. Donc est-ce que c'est un génocide, pas un génocide? Est-ce qu'il y a une intentionnalité? Est-ce que c'est aux historiens d'en décider? Est-ce que c'est aux juristes? Plutôt aux juristes. La CIJ, la Cour internationale de justice, s'est emparée de cette question-là. Au printemps 2024, il n'y a pas eu encore les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à ce moment. Donc il faut questionner le terme de génocide. Finalement, première question qu'on se pose, y compris dans l'écriture du film au début, c'est est-ce que Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, a raison? En fait. Et donc là, moi, je commence, non pas sous forme d'enquête, mais je commence à essayer de réunir des éléments, déjà à écouter Francesca Albanese et aussi réunir des éléments. Un an et demi plus tard, il n'y a plus de doute. Et en fait, cette question ne s'est même pas posée au sein d'Arte, par exemple, ou au sein des autres chaînes ou des productions. Ça ne s'est même pas posé pour le réalisateur que je suis. Il y avait l'évidence de l'intentionnalité, toutes les preuves. Et là, Amos Goldberg, historien israélien, le rappelle dans le film. Jamais ça n'était aussi évident. La question en Europe, c'est que génocide égale Shoah. Et il faut sortir de cette logique-là auprès de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de l'Holocauste, il y a une spécificité de la Shoah qu'il faut reconnaître. Mais un génocide, c'est le Rwanda. Un génocide, c'est ce qui s'est passé à Sarajevo. Un génocide, c'est ce qui s'est passé pour les Rohingyas. Donc, quelles sont les structures de ces génocides? Comment ils sont annoncés? Quelles sont les étapes qui sont suivies? Comment réagissent les autorités qui commettent elles-mêmes le génocide? Effectivement, c'était assez évident sur Gaza.
Et d'ailleurs, Francesca, vous dites aussi, vous parlez d'un génocide algorithmique, c'est-à-dire dossier, liste, bombardement, autorisation, calories même mesurées. Comment aujourd'hui un génocide peut-il être aussi bureaucratique?
Je pense que tout génocide a un niveau de bureaucratie, surtout dans des pays qui se présentent ou se pensent à soi-même comme assez institutionnalisé ou assez, entre guillemets, civilisé. Moi, je trouvais toujours l'occupation israélienne très, très complexe du point de vue des documents programmatiques, des lignes d'action entre le militaire et le civil. Et je pense que ça évolue parce que cette structure donne l'idée de quelque chose de bien réfléchi et en fait qui reflète un état de droit. Mais en fait, c'est un état, quand il s'agit de Palestine, tout ce qui est Israël est un état de droit mis au service de l'élimination et de l'anéantissement de l'autre en tant que tel. Disons que ce qu'Israël a bâti pendant des décennies envers les Palestiniens a éclaté dans une violence en fait génocidaire où tout a continué à être justifié selon des procédures, selon des procès bien établis et partis de l'état de droit. Vous avez vu le rôle de l'exécutif, le rôle du judiciaire, le rôle du Parlement qui continuait. C'est pour ça que je dis non, c'est pas la folie du Premier ministre Netanyahu. Il y a eu le gouvernement à côté de lui en avançant, en prenant plusieurs mesures pour avancer la destruction des Palestiniens, pas seulement de la bande de Gaza. De la bande de Gaza, c'était clairement comme un génocide. Mais dans la Cisjordanie et Jérusalem-Est, les actes qui ont été mis en œuvre contre les Palestiniens sont aussi à évaluer si c'était un génocide ou pas, parce que ça mène sur la même forme de destruction, même si moins massive. Mais bien sûr, c'est très bureaucratique et c'était toujours très bureaucratique parce qu'on a besoin de la bureaucratie dans un système pareil pour justifier la disparition d'un autre peuple.
Justement, Christophe, vous avez aussi filmé plusieurs révolutions, plusieurs résistances au sein de votre carrière. Qu'est-ce qui, dans le cas palestinien, vous a le plus frappé ?
C'est une bonne question. C'est l'invisibilisation, en fait, du peuple palestinien, et qui me fait penser à ce qui a pu se passer en 1994 à Kigali et dans l'ensemble du Rwanda. C'est-à-dire que en 1994, au Rwanda, au moment du génocide des Tutsis du Rwanda, il n'y avait pas d'image. Les journalistes n'étaient pas là, mais ils étaient accaparés par Sarajevo. Donc on pouvait massacrer à ciel ouvert, il n'y avait pas d'images. Ce qui est très frappant avec Gaza, c'est qu'il y a des images partout. C'est que malgré l'interdiction des journalistes internationaux, il y a beaucoup de journalistes palestiniens qui sont sur place, qui font très bien leur travail, qui filment, qui documentent au péril de leur vie. Je crois qu'il y a eu... j'ai lu récemment qu'il y avait eu plus de journalistes palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis 2 ans que dans l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, 3 fois plus. C'est des chiffres qui nous interpellent. Il n'y a jamais eu autant de journalistes tués sur un terrain de conflit. Malgré ça, les journalistes palestiniens font preuve d'un courage qui dépasse l'imagination. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous documenter au quotidien ce génocide. Donc on a les images. On a les images, on a les informations, on sait tout. Et on sait tout et on ne fait rien. C'est ça qui est vraiment, je pense, qui a une spécificité, qui crée de l'indignation. Alors pas seulement dans le monde arabe, pas seulement en Palestine, pas seulement dans les pays du Sud, dans le Sud global, mais partout. On voit comment réagit aujourd'hui la population en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie. Ça s'est réveillé récemment. On aimerait qu'il y ait autant de mobilisation en France, mais ça crée une indignation. Et ça crée, moi aussi, en tant que réalisateur, citoyen et aussi réalisateur, ça crée une indignation particulière qu'on n'a pas vue parce qu'il y a des images. Voilà, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait des images et qu'on ne fasse rien qui crée vraiment une singularité dans ce conflit.
Francisca, Christophe parle d'invisibilisation. Vous dites dans votre livre « Quand le monde dort », pour la première fois, je me sens véritablement indignée par l'indifférence.
Oui, bien sûr. Ça, c'est à l'aube de la présentation de mon rapport c'était mon cinquième rapport portant sur... C'était le deuxième rapport sur le génocide. Et mon cinquième rapport en tant que relatrice spéciale, je disais, au bout d'une année, le mois d'octobre 2024, quand même, c'est bien la différence de ces pays qui permet la continuation du génocide. Mais ça, c'était après le sixième et septième rapport, en fait, qui m'ont fait bien comprendre que c'est même pas l'indifférence. L'indifférence, c'est un symptôme, c'est un résultat, c'est un effet de ce qu'il y a de bien plus profond, une connivence entre les intérêts de beaucoup de pays occidentaux et même des pays arabes et même des pays du sud global qui n'osent pas se poser en contradiction, si, et sont à savoir presque en complicité directe avec Israël dans la commission des crimes. C'est en fait disons, la complicité avec les crimes d'Israël, avec des actions et des missions pendant des décennies qui ont permis à Israël de se consolider comme puissance occupante illégale, visant à l'annexion du territoire qui est resté aux Palestiniens, malgré tout le monde parlait de paix, solution à deux États, et entre-temps Israël volait toute la terre qu'il pouvait. C'était ces États, cette complicité qui a permis à Israël de cristalliser son système d'apartheid et après de devenir, d'arriver à commettre un génocide. Les États membres, et je n'ai listé, je n'ai enquêté presque plus que 60, ont toutes commis quelques actions, étaient responsables pour des omissions qui ont permis à Israël de devenir ce qu'elle est devenue. Et il y a, et ça c'est le deuxième élément, qui est connecté au premier, on fait partie d'un système économique financier dont Israël est, avec les États-Unis, un élément très important et presque incontournable. Et ça rend ce qu'Israël produit, surtout des armements et des services de surveillance, indispensable à plusieurs régimes et à plusieurs pays, même ceux-ci dits démocratiques. Et ce sont les profits et le commerce avec Israël qui restent un des éléments qui on ne peut pas oublier de ce soutien au génocide.
Et vous parlez aussi tous les deux, à la fois dans le livre et dans le film, on parle aussi pas uniquement du présent qui est détruit, mais aussi de l'avenir qui, enfin, on peut pas, il y a pas cette, on ne voit pas justement de futur et d'avenir. Dans le livre de Francesca, c'est avec un des chapitres aussi, je trouve, les plus forts, où on parle de Hind Rajab qui a 6 ans. Vous, Christophe, dans votre film, on voit aussi ces enfants palestiniens qui témoignent dans votre film. Francesca, vous dites aussi que ces enfants-là sont, avant de vivre leur enfance, deviennent des juristes, des mini-juristes, des professionnels un peu du droit. Vous l'avez vu aussi en Cisjordanie. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour justement sur ces enfances aussi volées? Comment on se construit avec tout ça?
Oui, bon, alors il faut dire que mon livre, le livre que j'écris, c'est un peu un récit personnel à travers 10 personnages que j'ai choisis, qui nous guident à travers des sujets très complexes concernant la question palestinienne ou israélo-palestinien, à savoir l'autodétermination, l'occupation, l'apartheid, est-ce qu'il y a apartheid ou non, est-ce qu'il y a un génocide ou non. Il y a plus des Palestiniens, des Israéliens et des gens qui sont connectés à cette terre, à des liens, disons, de sang ou d'esprit. Et là, les enfants sont une partie prenante parce qu'ils ont été une partie prenante de mon travail en tant que relatrice spéciale. J'ai connu plusieurs enfants, discuté avec plusieurs enfants de façon professionnelle. Mon troisième rapport était dédié, consacré à l'enfance en Palestine. Il s'appelait unchilding. Il n'y a pas un mot correspondant à ce mot anglais qui signifie en fait la privation de l'enfance, de la légèreté de l'enfance chez les enfants palestiniens. Et bref, pour le dire en bref, oui, à un certain moment, je conclus dans le bouquin, il parlait avec les enfants palestiniens, parfois comme parler avec des petits avocats, parce qu'ils sont tout au courant de leurs droits, de leurs obligations, de ce qu'est une occupation. Et ça correspond vraiment un peu au drame de ces enfants, parce que leurs épaules d'enfants sont chargées ravagée par des angoisses, des préoccupations réelles, mais aussi ils sont poussés à avoir une maturité qui n'est pas normale parmi des enfants de 10 ans, 12 ans qui te parlent. Voilà, comme s'ils étaient des petits juristes en discutant c'est quoi les limites à l'occupation, c'est quoi un apartheid. Et ça, c'est le produit de la réalité qu'ils se trouvent à vivre.
Et pour vous, Christophe ?
Ce qui est frappant en Cisjordanie et ce qui est frappant aussi dans l'ensemble des territoires palestiniens, c'est que l'État d'Israël a décidé, ça c'est peut-être aussi une des spécificités de ce génocide, enfin non pas du génocide, mais qui qualifierait le génocide, mais spécificité du conflit, pardon, c'est que les enfants sont prioritairement les cibles de ce génocide et des crimes qui sont commis. Plusieurs choses, l'interdiction de la Knesset des activités de l'UNRWA à Jérusalem-Est. C'est-à-dire que là, les écoles doivent être fermées à Jérusalem-Est. Elles ont été fermées. On parle de centaines de milliers d'enfants qui n'ont pas eu à cette rentrée accès à l'éducation. Il n'y a aucune autre motivation qu'une motivation politique. Il n'y avait aucune raison d'empêcher des enfants. Moi, je les ai visités, ces écoles. Les enfants y apprennent exactement la même chose que des enfants d'autres pays environnants ou que des enfants français. On y apprend à lire, on y apprend à écrire, on y apprend un certain nombre d'éléments qui vous constituent en tant qu'individu. Donc fermer ces écoles contribue à détruire la culture palestinienne. C'est dans les rapports de Francesca Albanese, vous avez des enfants qui sont ciblés, qui sont snipés dans la tête, dans la poitrine, en Cisjordanie. On les empêche d'aller à l'école, d'où des intrusions permanentes dans les camps. Il y a un certain nombre d'empêchements aussi en Cisjordanie par l'armée israélienne. À Gaza, les écoles ont été principalement, c'est l'UNRWA qui me l'a dit, et on le sait d'ailleurs, c'est largement documenté, les écoles ont été les premières cibles des bombardements. L'ensemble des écoles quasiment sont détruites. Pourquoi détruire principalement des écoles ? Parce que le Hamas vient s'y cacher à chaque fois. C'est documenté, effectivement. Ouais. Et la spécificité aussi, c'est qu'en termes de nombre de morts documentés, prouvés d'après les sources, c'est une majorité de femmes et d'enfants. Donc l'idée d'employer le mot « guerre », par exemple, qui ciblerait des hommes ou des combattants en armes qui combattraient la population israélienne ou l'État israélien, ne tient pas au vu de l'immense majorité de types de personnes qui sont décédées à Gaza, c'est-à-dire principalement des enfants, principalement des femmes, dans une proportion bien plus large que dans n'importe quel autre conflit et génocide.
Et pourtant, malgré tout cela, beaucoup d'États disent aujourd'hui « nous manquons de preuves ». Vous, Francesca, vous dites nous manquons de courage. Quelle est pour vous la différence justement fondamentale entre les deux ?
Ouf, c'est bon, ça c'est une question difficile parce ouais. que en fait, pour moi, les obligations que les États ont ne concernent même pas du courage, concernent le fait que ce sont des obligations. La loi et le respect des lois, ça fait partie de notre contrat social, au niveau national comme au niveau international. Ça, c'est le cœur du modèle occidental. Le cœur du modèle occidental, c'est la démocratie. Mais la démocratie n'est pas faite seulement de procédures, mais de substance, de respect, de droits de tous et toutes, dès qu'ils sont reconnus par les traités ou par les constitutions. Et maintenant, c'est aussi choquant de voir que c'est pointé comme un acte de courage répondre à la justice, comme un impératif catégorique. Mais pour moi, c'est la règle, ce sont les règles basiques, ce sont les traits minimaux qu'a quelqu'un qui s'occupe de politique. N'importe qui au service de l'État devrait avoir, devrait exhiber, vous voyez. Et bien sûr, aujourd'hui, devant un génocide, j'ai toujours dit, c'est question de courage, pas d'intelligence. Mais à la fois, malgré que je le dis, je me demande aussi si on est devenu trop minimaliste dans ce qu'on s'attend et dans ce qu'on demande aux représentants politiques qui sont au pouvoir dans les soucis dites démocraties.
Et dans votre film, Christophe, Francesca dit « il y a une rage qui ressort, c'est inhumain de ne pas ressentir cela ». Est-ce que vous, vous avez justement ressenti cette rage avant, pendant ou peut-être après le film ?
Non. Enfin, après, oui, très certainement. Mais en fait, je vais vous faire une fausse réponse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, oui, forcément, il y a une rage. Évidemment, on est face, on en parlait effectivement, à une opinion qui ne réagit pas, des États qui ne respectent pas le droit international comme ils le devraient. Donc effectivement, c'est... Moi, je fais pas de rage, je ne suis pas palestinien, je n'ai pas perdu de proches dans cette affaire. Mais en tant que citoyen observateur, minimum conscient de ce qui se passe, évidemment, ça crée une très, très forte indignation. Ceci étant dit, moi, j'ai refusé, alors contrairement peut-être à d'autres films que j'ai pu faire avant, j'ai refusé de voir des images d'enfants morts, de destruction, de bombardement. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai mis à distance les images et je les avais...
On n'en voit pas dans votre film aussi.
On en voit très peu, j'ai pas voulu, j'en ai un. Donc voilà, j'ai des heures et des heures de rush filmées par des journalistes, par des humanitaires sur place. On a toute la documentation. J'en ai montré quelques-unes, mais je n'ai pas envie d'entrer dans une... J'ai pas envie de montrer des corps morts parce qu'à un moment, effectivement, ça peut indigner, ça crée de l'émotion, mais ça nous aide pas à aller plus loin. Donc voilà, ça me. Donc effectivement, il faut voir, il faut documenter, c'est important, mais je ne voulais pas le mettre dans le film et je ne me le suis pas imposé à moi-même au départ. J'avais pas besoin de ces images pour comprendre la logique qui était en œuvre, la logique génocidaire qui était en œuvre sur place. Par contre, je les ai vues après, une fois que j'avais terminé le film. Je voulais pas avoir. Je voulais pas que ça puisse influencer mon regard. Dans le film. Je les ai regardés après. Et effectivement, on a affaire à des images qui sont absolument terribles. Oui.
Et justement, dans vos deux œuvres, vous dites que la Palestine est un peu un test pour l'humanité. Francesca Selvon, est-ce que c'est un test raté ou c'est un test qui est encore réversible ? Est-ce qu'on peut encore... est-ce que ça peut aller mieux, entre guillemets ?
Pour le moment, c'est un test raté, sûrement pour les Nations Unies. C'est un peu l'échec de ce siècle de la communauté internationale. Dans le passé, quand le chèque a été irrécupérable, on a eu la fin des organisations qui représentaient le multilatéralisme. On a eu la fin de la Ligue des Nations, par exemple, qui portait à la création de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, on se demande si ça va être la même chose ou pas. J'espère, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas une alternative au multilatéralisme d'une façon ou de l'autre. Mais ça doit être un multilatéralisme qui reflète l'égalité, la liberté, le respect de toutes et tous, des peuples, en fait, idéalement, au-delà des États. On n'est pas encore là. On n'est même pas au niveau du respect de l'égalité des États. Alors, je dis que jusqu'à ce moment, les Nations Unies, dans les derniers deux ans, se sont montrées au clair pour l'échec. Mais c'est récupérable. Mais ça dépend, c'est-à-dire il y a un défi maintenant chez les gens. On voit des grèves, on voit des procès de rage qui devient une transformation. Il y a encore un grand point d'interrogation. Est-ce qu'on est en train de bouger vers la formation d'une nouvelle volonté politique qui vient plus du bas et qui est en mesure de révolter un peu la table dans l'esprit de Pablo Neruda? Ou bien on va... même cette rage-là, on va la réprimer au plus, la garder, arriver à la contenir dans un compromis de quelque forme. Voilà. Ça, c'est le défi, je ne sais pas, j'espère. C'est-à-dire, je crois beaucoup dans le pouvoir de l'imagination pour changer ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que le droit, si utilisé dans la poursuite de la justice, n'a besoin d'un ingrédient, d'un mouvement soutenu de gens, par les gens, de bonne foi, qui sont capables d'accepter un peu de sacrifice dans un moment autant douloureux et stratégique et de changement, d'accélération historique comme cela, pour un nouveau équilibre qui bénéficie toutes et tous sur la plupart de nous. Maintenant, c'est pas comme ça. Et voilà, on verra qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ça ne va pas s'arrêter ici, malheureusement.
Et Christophe, votre film montre aussi la pression énorme qui s'exerce sur quiconque parle de la Palestine. On l'a vu avec Francesca Albanese. Est-ce que vous avez dû censurer certaines scènes? Est-ce que vous avez senti aussi une forme peut-être de répression depuis ou la sortie du film? Enfin,
non.
Non.
Non, pas à mon niveau. Effectivement, Francesca Albanese, d'autres personnes ont une grosse pression. Enfin, est-il besoin de rappeler les sanctions? Est-il non. besoin de rappeler la brutalité du comportement de certains médias? Ce qui me semble important de dire, c'est que il n'y a pas de génocide sans complicité des médias à un moment. On l'a vu avec Radio Mille Collines au Rwanda, on l'a vu dans d'autres conflits, dans nettoyage ethnique, épuration ethnique, génocide. Les médias sont complices à différents endroits. C'est-à-dire qu'il y a besoin de médias à certains endroits. Évidemment, pour discriminer, pour invisibiliser, pour symboliser l'autre. Et jusque la dernière étape du génocide, à savoir la négation même de ce génocide, le négationnisme. C'est un processus où les médias accompagnent sur à peu près la moitié des étapes qui amènent à un génocide complété, les médias sont présents dans au moins 4 ou 5 de ces étapes. Donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est comment on peut lutter, enfin, en journaliste, comment on peut lutter contre ces médias qui véhiculeraient. Il y a une spécificité. Dans le cas de Gaza. C'est que ce n'est pas tant les médias internes à Israël, donc au gouvernement qui commet le génocide, que les médias extérieurs oui. qui participent de cette complicité. Et cette complicité, c'est à la fois des interviews qui n'en sont pas. Une radio publique, pas plus tard que la semaine dernière, a interviewé Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des territoires palestiniens pour l'ONU. On n'a parlé ni d'ONU, ni de territoires palestiniens, ni de ses rapports. Il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de mise en accusation. Et ainsi va-t-il pour l'ensemble des interlocuteurs qui s'expriment à l'endroit non pas forcément seulement de la défense du peuple palestinien, mais simplement de gens qui rappellent que, attention, le droit international doit être respecté. Et ça, c'est un ensemble. Donc des médias ont été complices, que ce soit pour des raisons d'intérêt. Au départ, on aurait pu penser il y a 2 ans qu'il s'agissait d'un malentendu. Effectivement, il y avait le choc du 7 octobre, il faut rappeler. Oui. La société israélienne est traumatisée par
et
ce qui s'est passé.
Et votre film commence aussi avec
absolument. Il y a eu des crimes de guerre le 7 octobre. La société israélienne est traumatisée et que nous, on puisse être traumatisés et en empathie avec le peuple israélien à ce moment-là est tout à fait naturel. Qu'il y ait pu avoir un malentendu de la part de médias occidentaux au départ, on peut le comprendre. 2 ans après, il n'y a plus aucune excuse. Ouais. Ça s'appelle de la complicité. Peut-être certains seront-ils poursuivis. Ça continue. C'est-à-dire que ça continue aujourd'hui d'invisibiliser non seulement, évidemment, on l'a dit, le peuple palestinien, mais aussi les gens qui s'expriment avec le droit international comme boussole. Un film permet de... En tout cas, c'est comme ça que j'envoie aussi mon film qui passera sur Arte, où j'étais totalement libre de dire ce que je voulais, avec évidemment des précautions de vérifier les faits. Ça, c'est toujours un travail journalistique de base. Permet de desserrer l'étau. C'est-à-dire que je crois qu'on va être parmi les premiers films à parler de génocide sur une chaîne française. Et ça me semble important, de bien qualifier.
Et Francesca, donc, on le lit aussi dans votre livre. Vous le dites, c'est un livre que vous avez mis plusieurs années... à écrire, aussi à recueillir, enfin, ça parle de vous. Et on se rend compte aussi que vous êtes devenue une cible. À quel moment est-ce que vous avez cessé d'avoir peur ou appris justement à travailler avec cette peur? Il y a eu un événement aussi marquant en Allemagne qui vous a profondément aussi bouleversé quand on vous a qualifié aussi d'antisémite sans savoir ce qu'était réellement l'antisémitisme. Et vous en parlez aussi dans « Quand le monde dort
». Je trouve que mon cas est assez symbolique de quelle est la trajectoire à travers laquelle on arrive à se libérer de cette angoisse d'être traité en tant qu'antisémite. Parce que je reconnais que pour quelqu'un, surtout de bonne foi, en Europe, c'est très dur d'être accusé, d'être traité d'antisémitisme. Ça fait mal, c'est paralysant. À la fois, il faut garder à l'esprit le fait que ça, c'est un argument qui est souvent utilisé, presque tout le temps utilisé pour faire mal, distraire l'attention de là où elle devrait être, c'est-à-dire la question palestinienne et les violations qu'Israël commet envers les Palestiniens, mais aussi pour silencer Parce qu'exactement, c'est en s'appuyant à son effet effrayant sur la psychologie de qui a attaqué que, disons, ceux qui attaquent veulent produire un effet. Et c'est cela de silencer. Mais à la fois, il faut se rappeler de ce qu'on fait. Moi, bien sûr, je suis une critique de l'État d'Israël, mais pas pour ce que l'État d'Israël est et pour la religion qu'il professe, mais pour ce qu'Israël fait, pour ses pratiques, pour ce manque de conformité au droit international. Et je le fais en tant que relatrice spéciale de la Palestine sur le territoire palestinien occupé par Israël depuis presque 60 ans. Et là, petit à petit, je me suis fait force et j'ai dit, il faut se souvenir de ce qu'est l'antisémitisme et en fait, l'instrumentalisation de ce qui est l'antisémitisme est dangereux. Soit pour les juifs, soit pour les non-juifs, à savoir surtout les autres populations sémites qu'en Europe sont discriminées, sans même pas s'en rendre plus compte que c'est envers eux aussi une forme d'antisémitisme. Mais tout racisme est encore très enraciné en Europe envers les autres. Et aujourd'hui, apparemment, contre les juifs, un peu moins, mais moi je le sens encore très fort, l'antisémitisme en Europe ou en Occident. Seulement, il est caché. Il est caché pour ne pas déranger, ou au contraire, pour bien utiliser, disons, la protection d'Israël pour continuer à professer les idéologies de droite extrême qui alimentent l'antisémitisme.
Pour justement, vous le dites aussi dans le livre et vous l'avez dit aussi lors de notre échange, peu importe que l'on soit journaliste, boulanger ou avocat, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait et comment on se tient au monde. On le voit aussi dans votre film, en tant que réalisateur, vous avez voulu partager. Peut-être pour nos téléspectateurs, pardon, qui n'ont pas lu votre livre Francesca Albanese et qui n'ont pas encore vu votre livre Christophe, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de votre film d'abord, Christophe?
Alors déjà, je vous dis, faut vraiment lire le livre de Francesca Albanese. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de convaincus qui vont le lire, mais c'est très intéressant. Francesca arrive vraiment dans ce livre à articuler à la fois une pensée politique, une pensée juridique très importante sur le droit international, reliée à son expérience personnelle. Moi, je l'ai lu d'une traite. C'est absolument, voilà, ça se lit très facilement, c'est très agréable. Déjà, bravo à Francesca Albanese pour ce livre. Et non, dans mon film, il y a une chose, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de réduire un problème qui est extrêmement complexe, mais le droit international tel qu'il s'est fondé depuis la Seconde Guerre mondiale doit rester notre seule et unique boussole. C'est ça le message qu'on doit rester. Il ne s'agit pas. Moi, je ne veux même pas entrer dans des questions politiques. Je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien. Je peux avoir un avis là-dessus, mais effectivement, mon avis compte comme celui d'un boulanger, de n'importe quelle personne qui se concentre là-dessus. Par contre, un film peut avoir faire passer un message. Et mon message, c'est appliquons le droit international. Il y a tout dedans. Ce qu'on reproche, c'est de ne pas l'appliquer. Pourquoi on ne l'applique encore pas? Alors, effectivement, des intérêts, etc. C'est ce qu'on découvre dans le film. Oui.
Merci, Christophe. Et un dernier mot à Francesca Albanese. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre livre?
C'est un peu ce que Christophe Cotteret a dit, c'est appliquons le droit international en respectant la liberté et la dignité de tout le monde parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Pour ce qui concerne la Palestine, on a permis à un système d'apartheid de se consolider comme reflet d'une forme d'orientalisme, qui est un mot élégant pour dire d'ailleurs racisme, qu'on n'arrive pas à dépasser.
Merci beaucoup Francesca Albanese. Je rappelle, votre livre s'appelle Quand le monde dort. Et merci Christophe Cotteret. Je rappelle que votre film, qui sortira bientôt sur Arte, Disunited Nation, le 9 décembre prochain sur Arte. Et merci à vous de nous avoir regardés.
Merci.
Merci.
La conclusion par Gérard Haro dans un entretien avec Pascal Boniface.
Je rejoins tout à fait Pascal lorsqu'il dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si nous prétendons défendre le droit international, si nous prétendons soutenir la Cour pénale internationale, qu'il faut bien lire est une création occidentale, c'est le moment, elle a été créée en 1998 au moment du triomphe de l'Occident, où nous pensions qu'après l'effondrement du bloc soviétique, nous allions pouvoir imposer un droit, des relations internationales fondées sur le droit et la diffusion de la démocratie. C'était un peu la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Eh bien, lorsque cette Cour pénale internationale inculpe des dirigeants entre guillemets occidentaux ou des dirigeants israéliens, c'est totalement intenable de ne pas dire immédiatement nous appliquerons ces mandats d'arrêt comme nous avons décidé d'appliquer les mandats d'arrêt lorsque les victimes ou les objets de ces mandats d'arrêt étaient des Congolais, des Centrafricains ou un Russe. Et là derrière, je ne parle pas en termes moraux et même, mais je parle en termes, comme l'a dit très justement Pascal, en termes de crédibilité vis-à-vis du reste du monde. Comment voulez-vous que cet Occident qui donne des leçons à tout le monde, qui appelle au respect du droit international, immédiatement, dès que l'un d'entre eux se trouve mis en cause, essaye de trouver des explications, des excuses, des limitations qui sont quand même assez pitoyables. Et de voir donc beaucoup de pays de l'Allemagne, la France, etc. et d'autres essayent de s'évader des obligations de la Cour pénale internationale parce que c'est un dirigeant occidental. Je trouve ça pitoyable. Je pense que c'est un naufrage moral.
Merci Gérard Araud et à bientôt pour un prochain replay. Shut up.